Il est l'heure de la revue de presse française, comme chaque matin, et à la une. Ce matin, il y a la mobilisation des agriculteurs.
Il y a un changement historique dans la grande distribution, ma chère Julie, ça va vous intéresser.
Et d'alimentation, on en parle aussi ce matin dans le Figaro. Mais là, pas de lapin, non, c'est de poulet dont il est question.
Today's story, Neil, is about a food that a lot of people around the world eat for breakfast.
It's business.
La revue de presse du business de la bouffe.
Avec Olivier Frey.
Et Daniel Coutinho.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des It's Business, la revue de presse du business de la bouffe. Je suis comme d'habitude avec l'expert du secteur agroalimentaire, Olivier Frey. Bonjour Olivier.
Salut Daniel, bonjour à tous.
Alors Olivier, aujourd'hui on va parler des agriculteurs et stars sur les réseaux sociaux, de la ruche qui dit oui, de l'IPO de Deliveroo, ainsi que de la truffe blanche en France, de la filière foie gras et des lots aromatisés alcoolisés qui cartonnent aux US. Commençons tout de suite avec les premiers articles de la semaine, c'est sur Le Parisien, ces agriculteurs devenus stars des réseaux sociaux. Olivier, les salons de l'agriculture ont été annulés cette année, mais certains éleveurs et cultivateurs se font de plus en plus entendre sur les réseaux sociaux. Qui sont-ils ?
Oui, alors c'est des agriculteurs qui en fait sont depuis plusieurs années maintenant, hein, c'est pas tout récent. Donc ils s'appellent Agricole, Agritof 80, Agrizoom,
j'adore les noms de
Agriskippy. C'est devenu des véritables stars hein, qui ont des dizaines de milliers de followers aujourd'hui.
Des centaines de milliers même.
Et des centaines de milliers de suivis sur YouTube. Ils sont partis à la base du principe que ils étaient un peu déçus du travail de leurs interprofessions, de la manière dont on parlait de leur métier.
Et du coup, ils sont. Beaucoup d'agribashing aussi.
Il y a l'agribashing. Alors, l'agribashing, c'est finalement cette idée qu'il y a un dénigrement permanent dans les médias de l'agriculture. Et finalement, ils se sont dit, ils se sont retroussés les manches, ils ont pris leur téléphone, ils se sont achetés des caméras et ils se filment dans leur quotidien.
C'est génial.
Et ils échangent sur les réseaux sociaux avec les consommateurs et les citoyens.
Bien sûr, c'est une façon pour nous, urbains, d'être en contact avec la terre et d'apprendre davantage sur ces métiers-là.
Voilà, et la plupart sont réunis aujourd'hui dans une association qui s'appelle France Agritutos.
Tout à fait.
On en a déjà parlé, hein, tout un chacun peut être membre. Et finalement, on se rend compte aussi qu'ils ont un peu entraîné la profession sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a une étude qui est menée chaque année qui s'appelle Agrinote.
D'accord.
Et la cuvée 2020 a montré que 68% des agriculteurs sont des
68%, c'est un chiffre des dingues, ouais. Ça. Moi, je ne m'attendais pas à avoir un chiffre aussi élevé.
Ouais, et tu vois, en fait, ils étaient 1% à utiliser Twitter en 2015 et là, ils sont plus de 10%. Ils sont 11% à utiliser
11%
Twitter.
11% des agriculteurs français sont sur Twitter.
Ouais, grosso modo.
C'est énorme, oui. En fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un des agriculteurs qui s'appelle Étienne Fourmont, qui est plus connu comme Étienne Agri YouTuber.
Ouais.
Et il dit que c'est une autre façon de défendre la profession, proposer une version sans filtre, en fait, et authentique.
Voilà, et finalement, eux, aujourd'hui, ils sont aussi sollicités par les médias.
Bien sûr.
Dans le sens où ils sont invités sur les plateaux télé. Agrizoom, par exemple, était dans une émission sur France 2 il n'y a pas très longtemps. Étienne, lui, il est de temps en temps sur France 3. Il est intervenu aussi dans C'est dans l'air. Donc, ils sont aussi sur les plateaux télé. Donc, c'est assez intéressant parce qu'ils ont développé, ils sont devenus leurs propres médias quelque part aussi.
C'est génial. Et ils jouent de la carte de la transparence, en fait, pour faire découvrir leur métier. Ça, c'est quelque chose, justement, notre approche avec l'agence des bouffes, c'est valoriser l'humain et les savoir-faire avec transparence et pédagogie. C'est comme ça qu'on va changer les idées reçues, en fait.
Et oui, c'est plus vous expliquez aux gens comment vous travaillez, mieux finalement les gens vont comprendre pourquoi vous allez faire tel traitement à tel endroit, etc.
Voilà, parce que tout n'est pas noir sur blanc et les agriculteurs ne sont pas des méchants, surtout pas. On évoque également dans l'article David Forge qui cultive 170 hectares en Indre-et-Loire et qui a 107 000 abonnés à sa chaîne YouTube qui a été baptisée La Chaîne Agricole. Il publie une vidéo tous les mardis matin et au total il comptabilise déjà plus de 23 millions de vues. C'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Hein.
Ouais, c'est gigantesque, quoi.
David, c'est une des stars de YouTube. Quand tu te balades avec lui au salon de l'agriculture,
tu le connais, David ?
Je connais bien David. Ouais, c'est devenu un ami maintenant depuis le temps.
On pourrait l'appeler, non ?
Allez, on peut essayer de l'appeler.
Bah écoute, tu l'appelles.
Allez.
On va voir ce qu'il dit, ce que David va nous répondre. Ça nous fera plaisir, David, de t'avoir avec nous aujourd'hui sur It's Business.
Oui, donc.
Ouais, salut David, c'est Olivier de It's Business. Je suis avec Daniel là et on parlait justement des agriculteurs sur les réseaux sociaux et on s'est dit qu'on allait t'appeler pour te poser quelques questions.
C'est une bonne idée.
Hein ? T'as un peu de temps à nous consacrer ?
Oui, bien sûr, oui. Je vous écoute.
T'es sur le tracteur, là ?
Non, je suis presque. Je suis sur la route, je ramasse la terre que j'ai, j'ai disséminée, voilà, pour qu'on ne voit pas que je suis passé.
Bah, du coup, on a quelques questions. Déjà, première question, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à te lancer sur les réseaux sociaux ? Alors, tu l'as expliqué de temps en temps, mais tu peux peut-être nous dire un peu plus.
Ouais, bien sûr. Donc, il y a 6 ans, en 2015, j'ai ouvert la chaîne agricole, une chaîne YouTube, dans l'idée d'expliquer mon métier d'agriculteur céréalier, grande culture, hein, colza, blé, orge principalement, et puis de donner, nuancer, l'idée qu'on peut se faire de notre métier, nuancer la compréhension, donner à comprendre quoi, la complexité du métier, c'est pas tout blanc, tout noir, voilà, il y a des contraintes, des avantages au métier, et je tiens à les relayer, à les raconter.
Et salut David, c'est Daniel avec Olivier.
Salut.
Et quel est le type de contenu que tu publies sur YouTube et quel est l'impact sur ton quotidien ? Combien de temps ça te prend à la semaine pour publier ces contenus-là ?
Alors, ça me prend, on va dire, une journée à deux journées dans la semaine. Hein, c'est principalement le week-end. Oui, c'est pas mal. Ça devient de plus en plus, disons, plus le temps avance, plus je m'y consacre de temps. Parce que oui, j'ai investi les différents réseaux sociaux, hein, pas que YouTube. Et du coup, j'ai oublié le départ de ta question parce que j'ai répondu à la fin.
Quel type de contenu tu publies souvent sur les réseaux ?
Ah voilà, principalement ce qui s'est passé sur la ferme durant la semaine, principalement, hein, c'est je tiens à donner un rendez-vous une fois par semaine, c'est ce que je fais depuis 6 ans, où je raconte quels ont été les travaux, si ça a été la moisson, si ça a été les semis, comment je fais, et puis pourquoi, et puis voilà, ça m'occupe bien.
Ouais, et du coup, tu disais en fait, t'es surtout connu sur YouTube, mais t'es aussi un peu partout sur les réseaux, t'es sur Twitter, Instagram...
Ouais, t'es
même sur Twitch là maintenant, j'ai vu. Donc, pourquoi tu te mets sur toutes ces plateformes là et finalement est-ce que tu publies la même chose partout ?
Non, voilà, ouais, c'est principalement ça. C'est que chaque réseau va avoir un petit peu son contenu. Il y a toujours une manière de raconter le métier différemment sur chacun de ces réseaux. Sur YouTube, je trouve qu'on est pas mal dans l'immersion, l'image, le son. Il y a pas encore les odeurs. Mais la chaleur non plus, les sensations. J'essaye de, voilà, que ce soit le plus immersif possible. Après, sur Twitter, ça va être un peu plus pour les gens qui vont vouloir lire de l'info sur mon métier rapidement. Donc, c'est une photo, une légende, un moment clé de ma journée. Après, Twitch récemment, alors je pourrais le faire aussi avec YouTube, hein, la technologie le permet. C'est vraiment d'avoir, là, avec ces plateformes-là, avec Twitch, c'est d'avoir un lien direct avec mes abonnés. Donc, ils me posent des questions, j'y réponds en live. Et puis, c'est aussi répondre aux questions sous mes vidéos précédentes. Il y a beaucoup de questions que j'ai pas le temps de répondre et d'écrire mes réponses. Donc, de manière verbale, en live, ça me plaît beaucoup parce que c'est très rapide. Ça me prend, c'est sûr, 1 à 2 heures. Je fais ça le dimanche, là. En live, ça me prend un peu plus de temps, mais ça me permet de répondre à toutes les sollicitations de manière rapide.
Et David, qui sont tes abonnés en fait ? Est-ce que tu as des données sur les profils qui te suivent en fait ?
Ouais, à peu près. Oui, donc beaucoup, principalement, si on parlait d'âge, ce sont des jeunes. Hein, ils ont entre, on va dire entre 15 et 35 ans. On peut dire que ce sont 2/3 de l'audience, si on peut parler d'audience. Après, il y a tous les âges, hein, mais c'est principalement ceux-là. Après, dans les catégories professionnelles, il y a beaucoup de jeunes, forcément, s'ils ont 15 ans, qui ont une appétence pour la mécanique, qui sont en devenir des agriculteurs, agricultrices. Donc ça, c'est à peu près, on va dire, un petit tiers de l'audience. Donc, on va dire 30%. Après, on va dire à peu près 20% ce sont des agriculteurs, agricultrices en activité. Et puis, on va dire 40%, mais il manque un petit bout. Mes calculs sont pas bons, mais il y a un gros tiers de grand public. Et ça, c'est mon intention principale d'être sur les réseaux, de m'adresser au grand public. Mais je suis très content que les agriculteurs me suivent également.
Bon, bah super. Merci, David.
Merci beaucoup, David, pour ta participation.
Bonjour, messieurs. Bonne journée.
Bonne journée.
Bon week-end. Ciao.
Bon, c'est super de comprendre davantage ce qui fait David. Et pour ceux qui souhaitent les suivre, donc c'est la chaîne agricole sur YouTube. Et après, vous allez découvrir tous les réseaux sociaux sur lesquels David est présent. On passe de l'agriculture au circuit court. C'est sur LSA, La Ruche qui dit oui, ouvre son premier magasin en France. Alors Olivier, on apprend dans cet article que c'est acteur phare du circuit court, lancé en 2010, met un pied dans la distribution physique.
Oui, La Ruche qui dit oui, initialement, c'est une plateforme de mise en relation entre les consommateurs. Alors, ça s'est surtout développé au départ sur Paris, hein,
bien sûr.
Entre les consommateurs et les producteurs. La Ruche qui dit oui va sourcer des producteurs. Les producteurs fixent le prix de vente à La Ruche qui dit oui, qui va prendre sa marge. Et ensuite, les produits sont distribués dans ce qu'on appelle une ruche. Alors, ça peut être un local,
un restaurant.
Il y a des ruches par quartier. Mm-hmm. Et du coup, vous pouvez commander. Et quand il y a un certain nombre de commandes pour un produit, l'agriculteur s'engage à livrer la ruche.
Super.
Et donc là, l'idée, c'est d'ouvrir un magasin finalement. Alors, c'est pas un local.
C'est une épicerie, quoi.
C'est une épicerie. Alors, par contre, c'est une surface assez restreinte. Hein. Là, ça ouvre à Sceaux, en banlieue parisienne. C'est
d'accord.
Une trentaine de mètres carrés, à
30 mètres carrés, ouais.
Et entre 200 et 300 références.
Ouais, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, il a une seule référence par catégorie, mais quand même une variété grande des catégories. C'est ce qui nous permet de faire la totalité de nos courses au sein de l'épicerie de La Ruche qui dit oui.
Voilà. Donc... Avoir effectivement la surface me paraît assez
restreinte.
Assez restreinte quand même. Mais je pense des terroirs d'avenir, Zingam, etc.
Quoique terroirs d'avenir, ils
sont pas forcément beaucoup plus grands.
Ouais, ouais,
mais je pense que c'est une concurrence un peu avec ces épiceries-là, je dirais.
Oui. Et c'est un peu une approche omnicanal en fait, parce qu'ils sont déjà présents sur Internet. Et là, c'est peut-être avoir une présence dans un quartier pour établir une relation avec cette clientèle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les locales, il est martelé partout. Le nombre des kilomètres depuis les champs est indiqué pour chaque référence. Il y a quelques exceptions comme les agrumes qui viennent des Siciles en Italie. Mais sinon, pour les restes, c'est plutôt des produits de la région parisienne en fait, ou pas très loin de Paris.
Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est l'étiquetage du kilomètre, ça paraît intéressant
ouais.
Parce qu'effectivement, on a un peu plus l'idée de ce qu'on appelle le circuit court, mais là, cette fois-ci, c'est court au niveau géographique,
mm-hmm.
Et, alors que circuit court, initialement, c'est juste moins d'intermédiaires, c'est un seul intermédiaire.
C'est ça.
Là, on met aussi un peu de géographique là-dedans, et je pense que l'idée...
C'est du local, quoi, c'est ouais. Une alimentation plus locavore. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils appliquent une marge aux alentours des 40%, ce qu'on apprend, pour couvrir évidemment les frais liés à la logistique, au fonctionnement, au staff, au loyer. Et l'article nous apprend également que La Ruche qui dit oui a déjà ouvert un magasin physique à Milan, en Italie.
Oui, j'ai découvert ça aussi. Il y a déjà un magasin qui existe à Milan.
Ouais.
Et en fait, il compte en ouvrir 5 autres dans la région de Milan, a priori.
C'est intéressant.
Et aussi 5 magasins en France. Donc, je pense qu'il teste le concept, effectivement, de l'épicerie locale.
On est d'accord. Moi, ce que j'étais vraiment passé complètement à côté, c'est que c'est le développement à l'international de La Ruche qui dit oui. J'avais pas pris conscience de ces développements. En allant sur les sites, j'ai appris qu'en fait, ils sont présents en Suisse, en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne, en fait.
Ouais.
Donc, une vraie volonté d'internationaliser les modèles de La Ruche qui dit oui, évidemment, à chaque fois avec des producteurs locaux.
Voilà.
Et dans l'article, on revient également sur la stratégie de diversification de La Ruche qu'en 2018 a racheté Comptoir Local, qui est une plateforme des circuits courts qui propose de la livraison à domicile. Et elle a été aussi renommée à La Ruche qui dit oui à la maison. Donc aujourd'hui, La Ruche est capable de vous livrer à la maison, d'avoir sa propre boutique et aussi les ruches organisées comme au début de l'activité.
Oui, c'est un vrai écosystème alimentaire. En fait.
C'est très intéressant, on va suivre ça de près. Et là, du circuit court, on passe à la livraison des repas avec les leaders de la livraison qui prépare son entrée en bourse en Angleterre. C'est sur Les Échos, prêt pour la bourse. Deliveroo a livré 5 milliards d'euros des repas l'an dernier. Olivier, je répète, 5 milliards d'euros des repas livrés par Deliveroo en 2020. C'est de la folie.
Ouais, c'est énorme. C'est des chiffres, effectivement, qui font tourner la tête. C'est environ 6 millions de clients livrés tous les mois.
6 millions.
C'est énorme. Hein.
Énorme.
Et du coup, c'est grâce justement à cette introduction en bourse que Deliveroo a été obligé de dévoiler ces chiffres-là.
Voilà,
hein,
parce qu'on ne les connaissait pas.
On n'avait pas forcément ces données-là.
115 000
restaurants. 115 000
restaurants
et 800 villes,
800 villes
800 villes dans le monde.
C'est juste énorme, en fait.
Bon, après, Deliveroo, c'est...
C'est les principaux acteurs de
avec Just Eat et Uber Eats, à eux trois, ils font quand même beaucoup.
C'est qu'ils estiment en France que 7 livraisons sur 10 passent aujourd'hui sur Uber Eats ou Deliveroo.
Ouais. C'est les deux gros du marché. Ouais.
Alors, ce qu'on apprend aussi, c'est que la marge brute, parce que finalement, les chiffres d'affaires qu'on évoque, 5 milliards d'euros, ce n'est pas le chiffre d'affaires forcément de Deliveroo, parce que c'est les ventes.
C'est les ventes, voilà.
Bah, c'est les chiffres d'affaires qui passent par la plateforme. Mais en fait, les vrais chiffres d'affaires Deliveroo, c'est les commissions, c'est la marge brute qui a été, donc en 2020, des 357 millions de livres, soit 8% de la valeur des commandes.
Oui, étonnamment, hein, alors qu'on sait que Deliveroo... ponctionne entre 25 et 30%
ça,
des restaurants.
Ouais, donc, peut-être qu'il y a d'autres facteurs aussi qui vont rajouter à la marge brute. Peut-être que c'est les coûts des livreurs qui doivent peut-être venir.
Ouais, ouais.
Je ne sais pas comment ils font ça.
On sait que les startups, c'est ce genre de startup qui a brûlé beaucoup de cash aussi. Donc,
énormément.
Là, maintenant, le fait qu'ils gagnent de l'argent et que...
Ils ne gagnent pas de l'argent, justement.
Oui, c'est la marge qui est positive. Il y a encore une perte nette de 220 millions d'euros. Mais à partir du moment où ces boîtes vont gagner de l'argent, on ne sait pas à quand, hein, par contre. Hein, mais...
Oui, mais ce qui est intéressant, ce qu'on a appris, c'est que les pertes opérationnelles, ça veut dire avant les coûts financiers, etc., elle a été de 9 millions de livres. Donc, quand tu compares 9 millions de pertes sur les chiffres d'affaires des 5 milliards, ça fait 2,3%. Donc, en fait, ils sont vraiment très proches de l'équilibre. Là. Ils peuvent peut-être arriver à l'équilibre cette année.
Ouais, d'où le timing de l'introduction en bourse. Je pense que comme la livraison a explosé en 2020 suite à la crise sanitaire, donc je pense que c'est effectivement le bon moment pour eux de tenter une introduction en bourse.
Il faut qu'ils les fassent là, parce que la valorisation sera au max. Je pense qu'en 2022, l'excitation autour de la livraison, elle ne sera pas au niveau qu'elle est aujourd'hui, en fait.
Ouais,
parce que c'est la seule alternative disponible.
Ça retombera forcément, mais du coup, on est sur une valo à 7,2 milliards de livres.
C'est énorme.
Donc, ça fait à peu près, je pense, 9 milliards d'euros, quelque chose comme ça.
Ouais.
Donc, c'est quand même assez important. Hein.
Ouais, moi, c'est que j'aimerais mettre en perspective, c'est de comparer un peu la valorisation de Deliveroo avec un autre secteur qu'on aime beaucoup chez Eats Business, qui est la grande distribution, qui a beaucoup moins la cote. Et on évoquait souvent la valorisation des Carrefour. Là, par exemple, Deliveroo est valorisé à 7 milliards pour un chiffre d'affaires des 4 milliards des livres, en fait. En revanche, Carrefour, qui fait 80 milliards d'euros des chiffres d'affaires, est valorisé à 12 milliards d'euros. Donc, on n'a pas les mêmes ratios des valorisations. Là.
C'est totalement différent, c'est clair, et peut-être aussi lié à l'anticipation aux gens qui anticipent que Deliveroo, c'est l'avenir peut-être.
C'est ça, c'est les
aussi,
potentiels.
Parce qu'ils vont aller au-delà aussi de la restauration livrée à domicile. Deliveroo, ils livrent tes courses aujourd'hui. Hein, tu peux faire tes courses alimentaires sur Deliveroo.
Oui, cette valorisation est basée sur une attente de valorisation future qui est très importante. Et un autre point intéressant en fait, de cette levée de fonds, c'est que Deliveroo va également reverser 16 millions de livres aux livreurs. En fait. Donc 36 000 livreurs qui travaillent avec Deliveroo depuis plus d'un an vont toucher une espèce de prime grâce à l'ouverture en bourse.
Oui, bon, c'est pour éviter de les salarier. Ce serait mieux de les salarier. Hein,
on va dire que les fondateurs, il va mettre quand même beaucoup plus d'argent dans sa poche. Quoi.
Voilà.
Olivier, on va changer complètement des sujets là avec un article qui fera rigoler beaucoup de nos auditeurs. C'est sur le Figaro, jeune extrême, crudivorisme, instinctothérapie, les folies des nouveaux gourous de l'alimentation. Alors Olivier, ces phénomènes explosent dans cette période Covid, portés par des gourous aux centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux.
Oui, j'ai découvert tout ça grâce à cet article. Hein, c'est une enquête assez défiante sur les gourous de l'alimentation qui ont vraiment profité de cette période de crise sanitaire liée au Covid avec des gens qui sont enfermés chez eux, qui passent plus de temps sur Internet.
Bien sûr.
Qui sont obligés de se faire à manger, qui regardent peut-être plus aussi, font plus attention à leur ligne parce qu'ils peuvent faire moins de sport, les salles de sport sont fermées, etc.
Mmh.
Et finalement, on y découvre des exemples. Alors, vous avez par exemple Gabriel, alors je ne sais pas si c'est son vrai prénom, je pense que non, qui est un énergéticien. Et selon Gabriel, il est possible de se nourrir de lumière.
Gabriel, ça s'appelle la photosynthèse et c'est quand même réservé aux plantes, je te rappelle.
On a aussi Claudette qui se demande si on peut arrêter de boire. Tout simplement.
Bah, on pourrait, ça, on va un peu sécher, Claudette. Tu peux essayer de nous rappeler pour dire comment ça s'est passé.
On a Irène qui, de son côté, préconise de manger des aliments vivants et crus.
Ah bah ça c'est du déjà vu, en Asie on fait ça depuis un moment, il faut juste éviter de se taper un pangolin cru parce que ça peut...
ça peut être dangereux. Et vous avez Claude qui fait lui la promotion de ce qu'on appelle l'instinctothérapie, alors je découvrais ce terme là, c'est a priori il faut faire confiance à nos sens, à notre patrimoine génétique pour consommer ce que l'on cueille autour de soi.
Bah là au moins je suis un peu plus d'accord avec Claude, après à Paris on est mal barré quoi. Pour l'instinctothérapie.
Paris est dans n'importe quelle ville, hein, finalement, si tu regardes. Hein.
C'est énorme, en fait.
Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a quand même le Centre National d'Accompagnement Familial face à l'emprise sectaire, qui s'appelle le CAFES.
Je ne savais même pas que ça existait.
Qui regarde quand même de près tous ces phénomènes-là, parce qu'il part du principe qu'il y a une angoisse liée au Covid, qui a fait naître auprès du grand public tout un tas de eux, ils appellent ça des pervers manipulateurs, finalement. C'est des manipulateurs sur l'alimentation.
Bah écoutez, même je ne savais pas qu'il y avait une mission interministérielle des vigilances et des luttes contre les dérives sectaires et qui dit que sur 3000 signalements qu'ils ont reçus en 2020, 40% d'entre eux découlent des pratiques liées à la santé et au bien-être.
Oui,
c'est énorme,
et
en fait.
Et de toute façon, si tu regardes aussi en librairie, les livres santé bien-être cartonnent.
Les gens sont à la recherche de plus d'informations.
Et quand vous êtes youtubeur sur le bien-être, vous sortez un livre, ça cartonne.
Bah, écoute, c'est un business. Justement, dans l'article, ils citent, ils évoquent les noms des Thierry Casanovas, l'un des porte-étendards du mouvement crudivoriste. Et on se rend compte que c'est là un énorme business, en fait.
Ouais, il aurait 530 000 abonnés, 530 000 abonnés sur YouTube. C'est énorme. Hein.
C'est énorme.
Donc ça fait une audience énorme. Et par contre, c'est la personnalité qui serait la plus signalée auprès de la Miviludes, d'accord, avec 600 saisines enregistrées.
600
Voilà.
Donc, dont 70 en 2020, quoi.
Voilà.
Et donc c'est un ancien toxicomane qui raconte dans ses vidéos de s'avoir guéri de ses nombreuses pathologies en adoptant un régime crudivore.
Alors après, moi, crudivore, on peut manger de la salade de carottes. Hein.
Je suis d'accord. Ouais. Ce qui est intéressant dans sa démarche, c'est qu'il vend sur son site web des distillateurs d'eau, des mélanges des plantes ou des extracteurs des joues tarifés à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et en 2019, dans une émission 66 minutes sur M6, il disait qu'il réalisait un chiffre d'affaires de 250 000 euros quand même.
Ouais, c'est ce qu'on appelle un peu le dropshipping aussi.
C'est un bon business.
C'est un bon business. Un peu de dropshipping en même temps, c'est pas mal.
Écoute, ça, Olivier, ça me donne envie de mettre la casquette des gourous pour faire une recommandation à nos éditeurs. Continuez à bien manger, sain, varié, équilibré et en rémunérant correctement les producteurs et tout va bien se passer.
Et surtout, continuez à écouter It's Business.
Ah, ça, c'est une bonne idée. Alors, changeons complètement des sujets sans transition pour parler d'un produit des luxe qu'on pourra trouver prochainement dans la version Made in France. C'est sur Process Alimentaire. Linhae ouvre la voie à la culture de la truffe blanche du Piémont en France. Olivier, mauvaise nouvelle pour nos amis Citaliani et d'Alba. Après 9 ans de recherches, Linhae a réussi à acclimater la très rare truffe blanche du Piémont en France.
Oui, et c'est franchement intéressant. Alors ça voudrait peut-être dire qu'on pourra avoir des truffes moins chères dans quelques années, mais en tout cas, l'INRAE a fait un partenariat avec les pépinières Robin et ils ont réussi à acclimater ce champignon chez nous.
Génial.
Hein, jusqu'à présent, il était sa culture se faisait dans une zone géographique très limitée.
Très limitée.
Donc là, ils ont réussi à en produire dans le Rhône-Alpes, en Bourgogne-Franche-Comté et en Nouvelle-Aquitaine. C'est des récoltes pour l'instant très sommaires. Hein. On parle de 3 truffes en 2019 et 4 en 2020, mais vu le prix au kilo...
Il faut commencer par là.
Bah ouais, on commence petit. Peut-être que ça promet beaucoup et qu'on aura dans quelques années des trufficulteurs de truffes blanches,
ouais,
qui est quand même un des mets les plus raffinés au monde. Hein.
C'est clair. Bah, tu parles du prix au kilo. Les prix au kilo est entre 1500 à 3000 euros. Les kilos pour la truffe blanche et parfois les enchères à Alba peuvent augmenter jusqu'à 50 000 euros les kilos. C'est un truc des dingues. Moi, j'ai visité le marché des truffes à Alba. C'est génial. La ville, elle est magnifique et c'est énorme de voir ces produits là-bas. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que depuis les années 70 en Italie, ils ont essayé, il y a eu plus de 500 000 essais. Et seuls une dizaine avaient porté leurs fruits après 15 à 20 ans d'attente, en fait. Donc, là, ce qu'ils ont réussi là en France, c'est quand même un énorme exploit.
Oui, oui. L'INRAE, c'est un peu un fleuron de notre recherche. Donc, c'est une première mondiale. Alors, nul doute que si la culture de truffes blanches se développe en France, voire peut-être ailleurs, hein, sur notre territoire, ça fera aussi baisser les prix. parce que là, oui. Ce sera moins rare. Hein, donc
les Italiens, ils ne vont pas être très contents, mais ça permettra aussi d'offrir des revenus complémentaires aux agriculteurs en France et booster la filière.
Et ça permettra d'avoir des vraies truffes plutôt que de se contenter d'huile aromatisée à la truffe. Ça, ce n'est pas terrible.
Hein. Ah ouais, ça, c'est encore un autre sujet. On va rester, Olivier, sur les mets haut de gamme et on passe de la truffe au foie gras. Donc, c'est sur LSA, face à la crise, la difficile résilience de la filière foie gras. Olivier, on apprend dans cet article que les fêtes des fins d'année ont finalement sauvé la filière foie gras en 2020.
Oui, et puis la filière avait très peur hein, de fêtes de fin d'année confinées où finalement on était peu de monde à table et un foie gras, on ne va pas se mettre à tout seul ou à deux sur un foie gras.
C'est clair.
Donc la filière avait assez peur des fêtes de fin d'année parce que finalement c'est le gros de son chiffre d'affaires.
On est d'accord.
Et finalement sur 2020, le chiffre d'affaires serait en baisse de 2,7% en grande distribution.
C'est une bonne nouvelle parce qu'en début d'année, ils s'attendaient à une baisse beaucoup plus importante. On apprend que justement, cette performance, c'est grâce à la période des fêtes. Et, les deux dernières semaines de l'année 2020 par rapport à 2019 ont vu une augmentation des 32% et 27%. Donc, c'était un super Noël pour la filière, super fête des fins d'année.
Ouais, c'est assez intéressant, surtout que c'est des ventes en volume. Donc, on sait que les prix, en fait, la filière foie gras pâtit un peu aussi de la loi Egalim, parce que c'est traditionnellement en grande distribution, le foie gras est en promotion, et là, les promotions sont limitées à cause de la loi Egalim. Donc, c'est une des filières qui pâtit aussi un peu de cette loi-là.
Super.
Et notamment parce que finalement, les ventes de foie gras, ça se divise à 40% entre la grande distribution, 40% dans les restaurants qui sont fermés. Et 15% qui va à l'export.
Mmh.
Donc, on voit quand même que la filière foie gras en 2020, elle a perdu 40% déjà de son marché, hein, avec
bien
les
sûr,
restos qui sont fermés.
Est fermée, ouais.
Donc,
elle a dû récupérer donc, son chiffre d'affaires dans les GMS et surtout d'autres circuits courts. Par exemple, moi, pour les fêtes des fins d'année, je fais appel à Pelli Gourmet pour acheter du foie gras. Presque direct au producteur. Donc voilà, ils ont trouvé d'autres canaux de distribution pour pouvoir écouler les produits, mais ça reste quand même une très belle nouvelle. Et on apprend aussi que justement la baisse en volume et surtout une baisse anticipée aussi pour l'année 2021, parce que malheureusement les restaurants continuent fermés, c'est que la production aussi, ils ont dû adapter leur production.
Ouais, donc, la production, elle a dû baisser aussi à cause d'une épizootie d'influenza aviaire.
Il y a eu ça aussi.
Qui a ravagé des élevages dans le sud-ouest et donc ils ont dû abattre 2,5 millions de canards.
Mmh.
Donc la production, elle passera finalement de... On était en 2019 aux alentours de 30 millions de canards. En 2020, on était à 26 millions.
Mmh. Et il parle d'une réduction pour l'année 2021 des 20% encore.
Voilà. Donc, on est sur une baisse. Après, qui dit baisse, peut-être qu'on aura du foie gras de bonne qualité quand même. Hein.
C'est... Oui, non, on est d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est que les volumes prévus pour 2021, c'est 11 500 tonnes. C'est l'équivalent au volume fait en 2017, qui était les plus faibles sur les 6 dernières années, et beaucoup moins qu'en 2015, où nous avons produit 18 800 tonnes de foie gras. Donc, c'est presque 50% du volume produit en 2015, quoi.
Oui, et puis bon, après, il y a
aussi... Est-ce qu'on va s'attendre à une augmentation du prix du foie gras? Parce qu'on aura quand même une offre moins importante.
Ouais, peut-être. À voir. Et puis les restos vont probablement rouvrir.
Donc. Voilà, et peut-être on va vouloir fêter la fin de l'année 2021 avec du bon foie gras à table et avec beaucoup de convives, parce que du coup, j'espère qu'on n'aura plus les limites des 6 convives à table. On va continuer dans cet épisode très gastronomique aujourd'hui, parce qu'on passe du foie gras au vin pour célébrer une bonne nouvelle pour les vignerons français. C'est sur Les Échos, Airbus et les vins français allégés des taxes douanières américaines. Finalement, Olivier, c'est la fin des droits des douanes imposés par messieurs Trump.
Oui, on parlait de ça il y a quelques semaines où en fait on pensait que Joe Biden allait continuer à appliquer ces taxes mises en place par Donald Trump dans le conflit qui oppose Boeing à Airbus.
Mm-hmm.
Et finalement, il y a une trêve qui va être appliquée. Alors, les droits de douane vont être supprimés pendant 4 mois.
D'accord.
C'est une première étape, 4 mois, le temps d'étudier tout ça. Et on peut espérer éventuellement que ce sera supprimé pour de bon par la suite.
D'accord.
Et par contre, du coup, on se rend compte aussi qu'au niveau de la filière vin, ça a quand même pas mal impacté.
Mmh.
Les pertes liées à cette taxe-là, c'était 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la filière des vins de Bordeaux en 2020.
D'accord.
Et au global, pour les vins français, c'était 400 millions d'euros.
400 millions quand même.
Donc, bah, oui, oui. Ouais, les États-Unis, c'est le premier marché, oui. Hein, consommateur.
On avait évoqué ça dans un autre article. En fait, il y avait les restaurateurs américains aussi qui demandaient au gouvernement d'enlever ces droits de douane parce que eux, souvent, ils absorbaient ça dans les prix en pratiquant une marge moins importante en restauration. Mais on apprend aussi que d'autres pays européens comme l'Italie ou l'Espagne qui faisaient pas face à une augmentation aux droits des douanes, ils ont pris des parts des marchés aux US.
Alors l'Espagne, je sais pas. L'Italie, c'est sûr. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la filière vin française va devoir batailler pour retrouver des parts de marché.
Ils ont perdu du part de marché aux US.
Y a les vins australiens, les vins chiliens, tous ces pays-là ont profité finalement de la hausse des prix des vins français.
Voilà, c'est normal. Écoutez, du vin, on va passer à l'eau gazeuse alcoolisée. Donc, c'est sur le Financial Times, How Hard Seltzer's Viral Success Could Transform the Drinks Market. Comment les succès virals des eaux gazeuses alcoolisées pourraient transformer les marchés des boissons? Alors Olivier, les hard seltzer continuent à exploser les compteurs aux US.
Oui, les hard seltzer. Alors, je ne sais pas si on a une vraie traduction chez nous.
Moi, je l'appelle eau gazeuse alcoolisée, quoi.
Voilà, oui, c'est la traduction. Voilà. Mais en tout cas, c'est un vrai phénomène aux US. Pour l'instant, chez nous, c'est encore assez... assez marginal, je dirais, mais en tout cas, aux États-Unis, c'est un vrai phénomène parce que ça impacte fortement le marché de la bière.
Ouais. Ils disent que c'est les plus gros phénomènes depuis le lancement de la bière light les années 70.
Voilà. Parce qu'en fait, il faut voir que les hard seltzer, comme on les appelle, c'est des boissons qui sont moins fortes en alcool et donc qui sont de fait aussi moins caloriques que la bière.
C'est surtout, il y a différentes façons de la produire. Non, parfois, c'est de l'alcool rajouté.
Voilà.
Parfois, c'est de la
fermentation
fermentée, peut-être les plus haut de gamme, on va dire, qu'il y a une vraie fermentation. Mais surtout, c'est une boisson qui a les niveaux d'alcool de la bière avec beaucoup moins de calories, quoi.
Voilà, c'est ça. Et surtout, c'est un phénomène qui s'est développé pas mal grâce aux réseaux sociaux.
Mmh.
Je pense à TikTok. Il y a la marque White Claw qui est un des leaders, je crois, des hard seltzer.
Le leader, ouais.
C'est le leader. Qui s'est fortement développé grâce à TikTok. Donc à la fois il y a un côté où les gens se moquent de ceux qui boivent des hard seltzers, et de l'autre c'est ceux qui boivent des hard seltzers, c'est un peu un mode de vie aussi, en disant moi je bois peut-être plus sain que de la simple bière.
Il y a un consommateur qui a dit au Financial Times, avec les alcools forts, on devient fou. Les vins nous endorment parfois, la bière nous remplit. Les seltzers sont juste parfaits. Voilà la perception de certains consommateurs aux US par rapport à cette boisson-là.
Ouais, c'est une boisson qui plaît à la catégorie qu'on appelle les millennials, donc les consommateurs de demain aussi. Hein.
Oui, mais les prévisions sont dingues. Déjà, en 2018, ces segments pesaient 700 millions de dollars. En 2020, ils estiment que la consommation à la maison des hard seltzer a pesé pour 4 milliards de dollars, et ils estiment qu'en 2024 ça va représenter 15% du marché américain de la bière. Tu t'en rends compte, c'est dingue.
Ouais, 15% du marché de la bière. Le marché de la bière aux US, c'est énorme.
Il est énorme,
hein,
énorme.
Et du coup c'est aussi un terrain de bataille énorme pour tous les acteurs.
Tout le monde silence là.
De la bière et des boissons.
InBev, Coca, Heineken, Pernod, tous.
Il y a Pernod qui réfléchit aussi à se lancer, ouais, qui étudie sérieusement le marché et qui réfléchirait à se lancer aussi sur les hard seltzer. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un acteur comme Coca, qui jusqu'à présent ne faisait pas de boissons alcoolisées, s'est aussi lancé. Il y a une marque qui s'appelle Topo Chico, je crois,
ça appartient à Coca,
qui va être lancée là sur les marchés.
Ils font déjà des eaux gazeuses aromatisées, donc ils rajoutent un peu d'alcool et voilà, quoi.
Ouais, mais pour un acteur comme Coca qui n'était pas dans l'alcool, c'est
clair. Bon, moi ça m'inspire pas du tout, ces segments-là, mais en France ça inspiré certains entrepreneurs. Il y a quand même une marque qui a vu le jour, qui s'appelle Nats. Donc c'est la première marque tricolore des hard seltzer ou des eaux gazeuses alcoolisées à s'est lancée en France. Donc on va voir comment ça va développer en France. Peut-être la France, qui est un pays du vin, ça va pas se développer autant, mais peut-être qu'on sera surpris de voir une explosion des ventes aussi.
Ouais, à voir, parce que on avait un autre phénomène qui était l'eau gazeuse aromatisée, hein, sans alcool, qui était un vrai phénomène aux US aussi il y a quelques années, avec des marques très très connues, et certains avaient essayé de l'importer en France, ça avait pas marché.
C'est pas bon. bon, en fait. Moi, je ne vois pas l'intérêt de ces trucs-là.
Ouais, bon.
Écoute, on va continuer à parler alcool. Encore une fois sur Financial Times. Pandemic shift to premium brands leaves drinks makers in high spirits. L'impact positif de la pandémie sur les marques haut de gamme fait pétiller l'industrie des vins spiritueux. On apprend de cet article, Olivier, que les économies réalisées sur les voyages et les loisirs permettent aux consommateurs confinés chez eux de s'offrir des bouteilles haut de gamme.
Oui, bah finalement, on a tous fait des économies. Et donc, vu qu'on est confiné chez nous, qu'on doit faire des repas à la maison, plutôt que de se prendre un digestif un peu bas de gamme, on se dit bah, pourquoi je ne mettrais pas un peu plus d'argent dans une bonne bouteille pour vraiment me faire plaisir.
Oui.
Et du coup, c'est effectivement le segment ultra premium. Hein,
Oui, mais quand tu dis un peu plus d'argent, c'est beaucoup plus d'argent. Parce que là, on parle des ces segments-là ultra premium, ce sont des bouteilles qui coûtent plus de $100 la bouteille.
Ouais.
C'est un petit budget.
C'est un petit budget, mais avec tout ce que vous avez économisé, vous faites des petits plaisirs. Et je pense que c'est du coup, ça remet tout le marché des spiritueux un peu le focus sur le premium et l'ultra premium.
Mmh.
Avec on voit aussi des gros acteurs qui rachètent des petites marques qui sont sur cette niche là.
Ah, on a évoqué LVMH qui est resté, bon là c'est du champagne mais c'est du ultra premium, qui a racheté la marque des Jay-Z. Il y a Diageo aussi qui a racheté des marques, non?
Ouais, ils avaient racheté Casamigos, qui est
tequila haut de gamme
qui avait été développé par George Clooney. Ils avaient mis, je crois, 1 milliard pour racheter cette marque-là. Hein.
Ouais.
C'était énorme.
Bah, c'est... Ouais.
Et du coup, on se rend compte que tous ces alcools-là, aujourd'hui, c'est quand même plus de 40% de prévision de vente d'ici 2024.
Des croissances, c'est énorme.
Ouais, c'est vraiment le segment...
qui croît les plus vite. Ils disent que c'est la croissance de ces segments ultra-premium va 4 fois plus vite que les marques standards. Donc la croissance en valeur, surtout pour l'industrie des vins spiritueux, il viendra de ces marques ultra-premium. Il y a même les PDG en fait, de Diageo qui a dit que la tendance à se tourner vers les spiritueux plutôt que vers la bière et les vins s'accélère pendant la pandémie aussi. Et on a vu que les boissons alcoolisées, que les vins spiritueux, ils ont une croissance beaucoup plus importante que la bière et les vins aux US.
Oui, c'est un vrai phénomène, hein, finalement. Mm-hmm. Je pense que le marché de la bière, d'un côté, il y a les Herzelser, de l'autre côté, il y a la désaffection pour aller vers des spiritueux plus haut de gamme. Donc, mm-hmm. le marché de la bière, c'est un peu compliqué en ce moment, j'ai l'impression. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est une tendance. Alors, je ne sais pas si en France, on a la même tendance. En tout cas, aux États-Unis, c'est vraiment en train de se développer. Et c'est vraiment pour les acteurs. On a les restaurants qui sont fermés, les bars qui sont fermés. Est-ce que ces bars-là vont par la suite aussi proposer plus de ces spiritueux haut de gamme, ou est-ce qu'on reviendra sur des spiritueux plus pour faire des cocktails?
Je pense qu'il y aura un peu les deux, mais probablement la tendance elle va s'étendre aussi à consommation dans les bars et restaurants. On apprend aussi évidemment dans l'article qu'avec la crise, avec la fermeture des bars et restaurants, la filière spiritueuse s'en sort plutôt bien. Par contre, les brasseurs, ils ont payé très très cher, notamment ils évoquent Heineken, qui est le deuxième brasseur mondial, qui a annoncé 8000 suppressions d'emplois cette année.
Ouais,
donc ça a eu un impact fort sur leur activité. En discutant avec les acteurs parisiens des micro-brasseries parisiennes, on apprend également que les Covid et la fermeture des bars, malheureusement, ont pas mal impacté leur activité. On espère tous, et ça c'est les analystes qui suivent l'industrie, qu'un retour à la quasi-normalité en fait, en termes de socialisation d'ici les milieux de l'année 2021, donc cet été, et là du coup on va voir une augmentation à nouveau dans l'entraide, donc dans la consommation dans les bars et restaurants.
On espère tous, en tout cas.
On va passer directement, Olivier, sur les réseaux sociaux avec quelques perles que tu as pu identifier sur Twitter. On commence avec un Twitter d'une éleveuse, en fait, qui nous apprend beaucoup sur les prix payés aux éleveurs bovins en France.
Oui, alors c'est Anne-Cécile Suzanne qui a fait un tweet fin février où elle était très critique envers une promotion qui était affichée chez Carrefour,
mmh.
avec une côte de bœuf origine France qui était vendue à 9 euros le kilo.
9 euros la côte de bœuf.
9 euros le kilo de côte de bœuf. Donc ouais. C'est finalement, on se dit, sur une vente à 9 euros, qu'est-ce qui revient concrètement à l'éleveur?
À l'éleveur, quoi. Pas grand-chose.
Et en fait, il y a quelques jours, elle a donné un peu plus d'explications dans un tweet qui date du 6 mars sur combien un éleveur vend sa viande aux intermédiaires.
J'ai trouvé ça super. Je me suis intéressé, j'ai lu la totalité de ces tweets et il y a plein d'informations intéressantes. D'abord, elle nous explique les prix, par exemple, qui varient d'une vache laitière réformée qui est vendue autour des 2,80 € au kilo par rapport à une blonde d'Aquitaine qui est autour des 4,40 €. Bah déjà, elle nous explique comment on achète une bête. En fait, on va peser la carcasse et on va l'acheter au prix au kilo. Et après, c'est à chacun de la découper et vendre les pièces à des prix différents. Mais au départ, auprès des éleveurs, on va acheter la totalité de la bête avec un prix au kilo qui est prédéfini. Et il y a plein de variables qui jouent. L'âge, les physiques. Elle dit que, par exemple, on paye mieux une bête avec des grosses fesses, avec un long dos.
Ouais, parce que tu la valorises mieux finalement sur le marché français. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand on parle de vaches laitières de réforme, c'est-à-dire que c'est des vaches laitières donc, qui sont un peu moins productives sur le lait, qui arrivent en fin de carrière, comme si on peut dire, et qui sont ensuite envoyées par l'éleveur laitier à l'abattoir.
C'est ça.
Donc, il y a beaucoup, on le sait assez peu, mais beaucoup de viande que vous trouvez en supermarché, c'est de la vache laitière de réforme, clairement. Hein,
quand
vous avez des steaks.
Elle coûte moins cher parce qu'elle
elle coûte moins cher. Parce et donc, forcément, les abattoirs, quand il y a des problèmes sur le lait et que les éleveurs laitiers se mettent un peu tous à vendre une partie de leurs vaches pour produire moins de lait parce que le lait est moins rémunéré, ça fait un afflux de vaches laitières de réforme dans les abattoirs. Donc, les prix baissent et ça impacte aussi directement les éleveurs qui font de l'élevage bovin,
bien sûr,
à destination de la viande.
Voilà, parce qu'ils sont en concurrence avec un produit qui a déjà eu un usage, on va dire,
entre guillemets,
de la vache, qui du coup est vendu moins cher. On apprend aussi que, en fait, qui sont les acteurs qui achètent les bêtes. En fait, donc elle nous explique qu'il y a souvent des intermédiaires qu'on appelle bouviers entre l'éleveur et l'abattoir, mais parfois ça arrive de vendre directement à des bouchers. Et là, elle félicite en fait les bouchers qui les font parce qu'ils payent déjà un peu mieux au kilo, et du coup pour les consommateurs aussi tu as moins d'intermédiaires et tu as plus d'informations sur la provenance de la bête. Donc ça, c'est peut-être un conseil à nos auditeurs poser la question à leur boucher: est-ce que vous achetez directement, vous passez par qui pour sourcer votre viande?
Ouais, ça peut être intéressant, mais c'est en tout cas, allez voir ce thread sur Twitter, vous en saurez un peu plus sur la manière dont fonctionne un peu tous les circuits de distribution de la viande.
C'est très intéressant. On va terminer donc l'épisode d'aujourd'hui avec un tweet hollywoodien. C'est messier Leonardo DiCaprio qui prend la parole pour parler des viandes végétales.
Ouais, et Léo, qui est un investisseur avisé, qui a mis quand même des billes dans Beyond Meat.
Et comme par hasard, il en fait la pub.
Par hasard, il en a fait la pub sur les réseaux sociaux en disant que si chaque personne aux États-Unis remplaçait un seul burger par semaine par de la viande Beyond Meat, ça équivaudrait à enlever 12 millions de voitures des routes américaines, en fait.
Ben, c'est très intéressant, c'est pas faux.
Et ça mettrait un peu de beurre dans ses épinards à lui.
Voilà, il faut juste qu'ils disent aussi que parfois, ce sont des produits qui ont passé par un processus d'ultra-transformation et que pour la santé, c'est peut-être un peu moins bien, mais bon, ça c'est un autre sujet.
En tout cas, c'est une communication qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux.
Ah ben c'est clair, Léo, il doit être suivi par des millions de personnes. Ouais, donc
36
tweet comme
millions
ça,
rien que sur Twitter.
Tu dois avoir un impact sur les ventes immédiates, en fait.
Voilà. Ouais.
Écoute Olivier, merci beaucoup pour encore cet épisode passionnant d'It's Business. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et à le partager autour de vous.
Pour vous abonner à la newsletter, il suffit d'aller sur businessofbouffe ou olivierfray.com et vous abonner dans la rubrique newsletter.
Bonne semaine et à bientôt.